Alors, bonjour à tous et merci d'être présents chez Filigrane aujourd'hui pour notre rencontre littéraire du jour. Comme vous l'avez remarqué, on a le plaisir d'accueillir David Funkinos, représentant de la nouvelle vague littéraire française contemporaine, lauréat du prix Giono, pour qui se souvient de David Funkinos, du prix Roger Nimier, si je ne me trompe pas, pour le potentiel érotique de ma femme, et qui vient aujourd'hui nous présenter son actualité littéraire avec Lennon, qui a été publié chez Plomb. Alors, avec ce livre, c'est quasi une action de salut public que vous faites, parce que dans quelques jours, genre une quinzaine de jours, je pense qu'on fête l'anniversaire de la mort de Lennon, qui a été assassiné un 8 décembre. Et ce qui est étonnant, c'est que ça a été le leader d'un des groupes musicaux les plus importants de la décennie.
Un petit groupe, quoi, les Beatles.
Voilà, ils ont eu un certain succès. Lui-même, on l'a vu un peu dans les journaux à l'époque. C'est devenu un peu une icône. Et finalement, à part ses chansons, son visage et ses combats politiques, on n'en sait pas beaucoup sur lui. Donc, c'est là qu'intervient David Funkinos, qui nous a éclairé de ses lumières. Et qui...
Pour ceux qui s'intéressaient pas spécialement à Lennon, parce qu'il y a quand même des fans qui connaissaient bien déjà...
Effectivement, mais figurez-vous, même pour ceux qui aiment bien, il n'y en avait pas tellement que ça, quoi. Ou bien alors, pas les détails un petit peu scabreux qu'on apprend dans le livre. Ouais. Et donc, par le biais d'une espèce de séance psychanalytique à répétition, petit à petit, il y a Lennon qui se livre à nous et qui nous donne vraiment un portrait intime. Alors, par rapport à ça, donc, par le biais de l'analyse, Lennon s'exprime à la première personne et donc forcément on sent bien que vous lui donnez vraiment cette altérité qu'il a jamais eue, parce que comme il le dit dans le livre, il s'est dilué plein de fois dans des concepts, on l'a réduit à un symbole et donc finalement il n'a pas vraiment eu de vie intérieure, ou elle a été réduite à des clichés. Et finalement je me suis demandé si le recours à l'artifice de la psychanalyse, c'était pas une façon de reconstituer la vérité de l'homme, mais tout en gardant, grâce justement à cette méthode un peu non scientifique, la part d'interprétation et de fantasme qui contribue à garder cet homme assez insaisissable.
C'est super. Incroyable, cette analyse. Non, c'est exactement ça, c'est impressionnant. Hein. Je devrais d'ailleurs utiliser cette phrase-là pour ma promo, c'est très très bien. Hein. Non, moi j'ai fait un livre, c'est vrai, sur John Lennon, c'est très différent de mes autres romans. J'écris habituellement des romans d'imagination et j'écris des histoires. Et là, j'avais envie, depuis très longtemps, j'avais cette idée d'écrire sur John Lennon. Dans tous mes romans, je parle des Beatles à un moment donné ou de John Lennon. Dans La Délicatesse, j'avais mis la discographie de John Lennon s'il n'était pas mort en 1980. J'avais inventé la suite de sa discographie et je m'étais fait plaisir au passage en réinventant, en reformant les Beatles. Et c'était une obsession et c'était pour moi. Je cherchais depuis des années comment. C'est un personnage quand même qui fait partie de l'histoire collective, l'histoire de la musique, quasiment mythifié. Comment plein de gens, il y a déjà eu plein de livres sur lui et je cherchais un angle. Comment faire un livre sur John Lennon. Et j'utilise le procédé effectivement des séances chez le psy, puisque c'est lui qui se raconte. C'est pas du tout un roman psychanalytique, hein, loin de là, parce que c'est juste un procédé, puisque je voulais vraiment faire des confessions, que c'est Lennon qui raconte sa vie. Et ce qui était important pour moi, c'est de l'utiliser comme un personnage de roman, parce que sa vie est incroyablement romanesque, et je reviens notamment très longuement sur l'enfance. Je continue ?
Non, mais je peux... Je buvais vos paroles, c'est juste pour ça.
C'est sympa, ça.
Alors, ça m'amène justement à ma deuxième question, parce que John Lennon parle de lui-même à la première personne, mais évidemment, c'est quand même toujours un personnage de fiction qui se crée. Et donc, finalement, je me demandais, parce que vous prenez, par rapport à une biographie habituelle, ou c'est quand même assez didactique, très chronologique, là, vous faites des bonds dans le temps, vous lui laissez vraiment les rênes de son histoire, puisque c'est lui qui se raconte. Et il revient sur certains événements, mais au présent, pour expliquer des choses, ou pour nous dire si ça s'est passé à ce moment-là, c'est parce que j'ai vécu tel autre truc, etc. Et je me demandais, en tant qu'écrivain, quelle posture cet exercice vous demandait-elle ? Est-ce que vous vous êtes vraiment imprégné dans la peau de John Lennon en vous disant, je me mets, je pense comme lui, ou quelque chose comme ça, un peu schizophrénique ? Ou bien alors, vous avez tout simplement comblé les trous, créé, romancé une histoire à la façon vraiment d'un écrivain, quoi.
Ouais, c'est ça, c'est un peu les deux, en fait. Hein, mais c'est vrai que je me suis surtout... je me suis pas mis dans sa peau, mais je lui ai pris la main. J'étais vraiment pendant des mois et des mois à côté de lui. Et j'ai travaillé beaucoup sur les archives pour écouter sa voix, comment il parlait, son humour, sa façon d'être. Pour moi, ce qui était très important, c'est de faire une biographie complète et réelle et factuelle. Bien sûr, c'est soumis à mon interprétation de ce qu'il a pu penser, de ce qu'il a pu vivre, mais le livre est sorti depuis un mois et demi et j'ai pas eu à subir les foudres des docteurs S. Lennon et des talibans des Beatles, parce qu'il y a des maniaques, hein, donc c'était très risqué de faire un livre sur John Lennon. Et je suis très content par rapport à l'aspect factuel et voilà, de sa vie. Je crois qu'on a... je raconte vraiment tous les épisodes marquants. Et ce qui m'intéressait, c'était de faire une biographie émotionnelle. C'est-à-dire, voilà, quand Lennon vit quelque chose, c'était pas simplement mettre les faits, mais le jeu me permettait de préciser ce qu'il avait pu imaginer, ce qu'il avait pu penser. J'ai recoupé beaucoup de choses. Forcément, c'est... par exemple, Lennon, il a été extrêmement contradictoire dans sa vie. Il a été très très violent avec son premier fils et fou d'amour avec le second. Mais par exemple, le rapport qu'il a eu avec Julian Lennon, c'est... j'arrive à être au plus proche de la vérité, je pense, parce que j'ai lu beaucoup d'interviews de Lennon, de Yoko, de Cynthia. Julian Lennon lui-même a raconté à quel point son père était dur avec lui. Et tout ça a mélangé, ça me permet d'essayer d'avoir la justesse de ce qu'il avait pu penser. Et le jeu, je crois que ça nous permet vraiment d'être au plus proche du personnage.
Et c'est vraiment étonnant parce que quand j'ai lu votre le roman biographique, la première chose que je me suis dite, c'est à quel point on saisissait sans cesse que Lennon était super ambivalent. Donc on sent que, vu son enfance, etc., il a super besoin d'être aimé, mais en même temps, il est très violent, il est en proie à la haine, il a des sentiments super exacerbés. Ensuite, il est né un petit peu indésirable et c'est devenu l'homme le plus convoité de la planète. Enfin, on est vraiment tout le temps dans l'ambiguïté. L'humain, on sent bien qu'il sait jamais vraiment... Enfin, il y a des périodes de doute qui contrastent avec des périodes où il se prend vraiment pour Jésus, ce qui était vraiment le cas, je pense. Et donc, je me demandais si le fait d'avoir vraiment mis ça en avant, c'était pour montrer que, finalement, il échappe à toute définition figée. Il reste quelqu'un de complètement insaisissable et le mythe, en fin de compte... il est toujours à recréer, il est toujours à redéfinir, à redécouvrir.
Là, ce qui est très juste, c'est qu'il est très insaisissable parce qu'il a, été en permanence, il a déplacé le curseur de sa propre sensibilité, de ce qu'il pensait, de ce qu'il vivait. Il a été extrêmement contradictoire. De toute façon, pour tout homme, c'est comme ça. C'est difficile de trouver la vérité de chaque homme. Mais lui, c'est vraiment très complexe. Et justement, je trouve que faire une biographie à la première personne, ça permettait de nuancer, d'être au plus proche de cette vérité-là qui est compliquée. Il a été incroyablement contradictoire, comme tous les artistes. Hein. C'est vrai qu'il allait... C'était un aller-retour permanent entre une forme de génie, de certitude de son talent et en même temps une fragilité quotidienne. Il pouvait chanter devant des milliers de personnes et puis être incapable de dire bonjour à une femme. Et il est touchant aussi pour ça, Lennon. Mais c'est vrai, quand on voit sa vie... tout à l'heure, je parlais du rapport à l'enfant. Il a été complètement différent avec ses deux enfants. À la femme, à Cynthia, la première, il l'a complètement... il l'a méprisée, il l'a mis dans l'ombre. Elle n'avait pas le droit de faire la moindre apparition publique pour ne pas gêner la carrière des Beatles. Alors qu'avec Yoko Ono, il n'a pas fait une seule apparition sans elle. Quand il l'a rencontrée, ils ont décidé de former plus qu'une seule personne. Il est capable, quand on lit le livre, on voit à quel point la souffrance est au cœur de sa vie. Et le malaise en permanence, il a toujours cherché à s'apaiser, à aller mieux. Et il était capable de partir en Inde pour faire des méditations par le silence. Et 6 mois plus tard, il tentait le cri primal, qui était des méditations où les adeptes, c'était un truc un peu délirant de la fin des années 60, début 70, se recroquevillaient comme des fœtus et criaient pour expier toutes les douleurs de leur enfance. Donc voilà, à 6 mois d'intervalle, il faisait le silence, le cri, et d'une manière générale, toute sa vie est comme ça. Et bien sûr, il y a la violence. C'est vrai qu'on a une image très, très policée maintenant de John Lennon. C'est le chanteur, c'est Imagine, c'est Give Peace a Chance, pacifiste, évidemment. Et je raconte dans le livre à quel point il a eu toute une période extrêmement brutale, violente, notamment un épisode assez peu connu où il a quasiment frappé à mort un marin pour le détrousser. Et il savait même pas s'il avait tué ou pas. Enfin, c'était vraiment d'une extrême violence. Hein. C'était une petite frappe très brutale. Hein. Et je me demande si finalement, après, toute son énergie à être pacifiste par la suite, c'était pas une façon d'absoudre cette violence initiale.
Il y a aussi quelque chose qui m'a fort frappée, c'est que justement par rapport au couple Cynthia, elle est un petit peu un boulet dans sa vie. Enfin, on sent bien qu'il est attaché à elle, mais qu'il a beaucoup de mal à le montrer. Et au contraire, alors que justement, pendant tout le roman, vous tentez, enfin, je trouve que vous tentez de remettre les choses un peu à leur place, de casser le mythe, John Lennon, le gentil garçon, le type...
Non, voilà, je veux pas casser le mythe. Moi, je suis vraiment un fan. Hein. Je veux pas écorner du tout Lennon. C'est juste que j'essaie d'être au plus proche de qui il a été vraiment et sa vérité. Et comme beaucoup de rockstars, il a des moments où c'est un salopard, il est dur, il est agressif, mais il est aussi extrêmement tendre, génial, émotionnel. Mais c'est pas pour moi, je veux pas casser le mythe. Hein. Je suis au propos, j'essaie d'être un portrait juste de sa vie.
Mais justement, par casser le mythe, j'entendais vraiment remettre les choses à un niveau plus normal, moins démesuré, moins dans la mythification et donc dans l'idéalisation de la personne. Mais justement, au moment où vous parlez d'Yoko Ono, vous avez des phrases vraiment magnifiques, comme par exemple, c'est John Lennon qui s'exprime, mais tout de même, il y a la plume de l'écrivain derrière. Yoko et moi, on est des siècles. Ou bien Yoko, ce n'est pas une femme, c'est un monde. Waouh, quoi.
Mais oui, mais c'était ça. Yoko, elle était tellement détestée. Ça a été la femme la plus... Enfin, il y a eu une telle violence contre elle. Les gens avaient l'impression qu'elle a assez de sa faute, bien sûr, si les Beatles se sont séparés. Et c'était insupportable parce qu'à partir du moment où il a été avec elle, ils ont formé plus qu'une seule personne. Donc elle assistait à toutes les séances d'enregistrement. Même quand elle était malade, à Abbey Road, ils mettaient un lit pour qu'elle se repose à côté. Et ça a rendu fou les autres Beatles, forcément. Mais Lennon était tellement mal à ce moment-là. Moi, je pense qu'il a commencé son histoire avec elle quand il avait 27 ans. Il était complètement accro à l'héroïne. Et il y a beaucoup de rockstars qui sont morts à 27 ans. Il y a Hendrix, il y a Morrison, il y a Joplin, il y a Kurt Cobain. Il y a le syndrome des 27. Et moi, je suis persuadé qu'elle l'a sauvé à ce moment-là. Donc, bien sûr qu'elle a énormément de défauts. Elle peut être machiavélique, elle peut être complexe et puis manipulatrice. Mais elle a été d'une importance décisive dans sa vie. Et elle l'a vraiment sauvée. Et moi, dans mon envie de faire ce livre, qui n'est pas spécialement une biographie musicale, c'est plus l'histoire de l'homme qui m'intéresse. Je reviens longuement sur l'enfance, ça m'intéressait beaucoup l'enfance de Lennon, mais ce qui m'intéressait vraiment aussi, c'était l'histoire d'amour avec Yoko Ono, que je trouve dingue. Pour moi, c'est la plus grande histoire du XXe siècle. Elle est fabuleuse de puissance, de mégalomanie, d'absolu. À partir, voilà, c'est une fusion amoureuse totale. C'est vraiment ils ont. Moi, je trouve que Lennon a trouvé une forme de liberté dans cet enfermement amoureux. Mais il y a des épisodes complètement fous de leur histoire d'amour. Plus tard, quand ils se séparent pendant un moment, Lennon est avec une autre fille et la fille fait des rapports tous les soirs à Yoko Ono. Enfin, l'histoire est téléguidée par Yoko Ono. Et vraiment, c'est un personnage que j'aime bien, qui est sulfureux, mais que j'aime bien. Et c'est elle aussi qui l'a. Il cherchait une alliée, pardon, artistique, intellectuelle. Celle qui l'a initiée à l'avant-garde, celle qui l'a initiée à la politique, et elle a été décisive dans les changements de. Vous pouvez répondre. Hein. On est très ouvert ici.
On est en open space.
On est très Ségolène Royal. On est. Alors c'est qui téléphone? C'est Yoko Ono peut-être.
Je vois qu'une dame du public a une petite question.
Ah oui.
Ah, Mme de... Vous voulez le micro ?
Rebonjour. Rebonjour.
Bonjour. Voilà, moi je voudrais revenir à votre travail, à votre approche du livre donc en tant qu'écrivain. Je voulais savoir si, au départ il y a l'idée d'une biographie sans doute un peu romancée sur Lennon. Je voulais savoir si vous aviez simplement accédé aux documents que, je dirais, le grand public connaît, si vous aviez approché des membres de sa famille, si vous aviez approché les ayants droit, etc. Ça, c'est ma première question, pour avoir une approche peut-être plus approfondie. Et si, au départ, avant de commencer le travail d'écrivain, si vous vouliez donner une image précise, enfin, si vous aviez en tête une image précise de Lennon que vous vouliez donner, et si oui, si cette image a évolué au fur et à mesure de l'écriture et des documents dont vous preniez connaissance.
D'accord. Bon, alors, non, c'est vrai que... Non, l'image de Lennon, elle a pas... Enfin, elle a évolué dans le sens où je connais toute sa vie, donc j'ai une vision précise et globale de sa vie. C'est vrai que j'ai appris des choses qui m'ont paru... Enfin, ça m'a... J'avais l'impression de tout connaître, mais j'ai appris des choses complètement dingues par rapport... Par exemple, il y avait une rumeur pendant les tournées américaines qui disait que les Beatles étaient capables de guérir. Et donc, il y avait tous les éclopés de la ville, les infirmes, les aveugles, qui étaient là, voilà, lourds, qui suppliaient Lennon et McCartney d'être touchés par eux, voilà, parce qu'ils avaient le sentiment qu'ils allaient s'en sortir grâce aux Beatles. Donc, tout ça précise une image générale. Je me dis, il y a de quoi devenir dingue de traverser cette folie-là. Et il y a de quoi se prendre pour le Christ, vraiment, quand on vit ces scènes-là, où on marche à travers tous les éclopés de la ville, comme les lépreux, quoi, quelque part. Ah oui. Et sinon, j'avais pas, moi, le travail, il y a beaucoup de choses déjà sur les nonnes. Donc, il y a toujours des choses nouvelles. C'est-à-dire que là, l'interview de, il y a une interview récente de Julian Lennon, son premier fils, où il explique à quel point Lennon a été dur avec lui, a été violent, a été un peu méprisant. Et donc, voilà, c'est des nouvelles informations quelque part. Mais moi, j'ai pas rencontré les ayants droit. Ça, c'était pas forcément un intérêt pour moi, parce qu'il y a tellement de choses déjà. La difficulté, c'était de recouper toutes les informations, et certaines sont contradictoires. Et c'était surtout d'avoir un point de vue. Par exemple, quand il a eu son premier fils, il est tout de suite parti en vacances avec son manager Brian Epstein en vacances. Et il y a cet épisode où on ne sait pas trop ce qui s'est passé. On ne sait pas trop s'il a eu des relations homosexuelles avec Brian Epstein. Et voilà, donc c'était l'idée de recouper toutes les informations. Pour moi j'ai un point de vue par rapport à cette semaine-là, par rapport à ce qu'il a pu vivre, ce qu'il a pu dire, et je l'exprime dans le livre. C'était surtout ça qui était pour moi, tenter de trouver la vérité de Lennon, quoi. Ça va ? Bon. Mais bon, qui sait, je vais peut-être rencontrer Yoko Ono maintenant. Hein. Ou tout asiatique disponible, quoi.
Vous avez déjà 27 ans, c'est le grand moment pour vous aussi ?
Moi, j'ai 36 ans.
Bah, vous faites tellement plus jeune.
J'ai 36 ans, oui. C'est... Il n'y a pas de syndrome pour les écrivains, je crois, encore. De...
Pas encore, vous allez l'inventer.
J'espère pas. J'espère pas.
Moi, j'avais encore une question par rapport à ça, c'est que vous appesantissez quand même vraiment beaucoup sur, voilà, sur son enfance, sur les rencontres décisives qui l'ont formé, et puis aussi sur tous ces lieux géographiques qui, dans tous les cas, lui permettent une éclosion. Donc, Liverpool de l'après-guerre, qui est avide de distraction après le marasme, le Hambourg sulfureux, qui est justement en proie, enfin, propice à ses premiers égarements. Puis, finalement, les États-Unis, en pleine période nixonienne, et donc très totalitaire. Et en même temps, l'artiste se déclare être né du néant et avoir fait de l'amnésie, sa drogue. Donc, est-ce que, pour lui, créer, c'était justement avoir tous vécu, mais l'annihiler pour reconstruire quelque chose de nouveau.
Waouh. Non, c'est vrai. C'est très juste. Hein. En tout cas, il est issu du néant. Ça, c'est pour moi extrêmement important. C'est vrai qu'on voit l'adolescence tellement déprimante de Lennon, où il se passait rien entre 5 et 15 ans. Il est à Liverpool. Bon, c'est la ville la plus déprimante. Enfin, cette époque en Angleterre, c'est extrêmement sinistre. Hein. Et moi, je raconte. C'est vrai que je reviens assez longuement sur l'enfance, qui est pour moi le socle de ses souffrances, de ses névroses. Il faut savoir qu'il est issu de deux parents un peu artistes, un peu bohèmes, un peu dingues, quoi, et complètement détonnants par rapport à cette époque-là. Il a été ballotté. Il y a même un épisode où, à l'âge de 5 ans, ses parents lui demandent « Tu préfères vivre avec ton père ou avec ta mère ?» Enfin, c'est difficile de faire mieux pour abîmer un enfant. Et puis, Mimi, sa tante, porte plainte, et c'est elle qui a la garde de John Lennon. Et Lennon, donc, il a le sentiment d'être abandonné. Ce qui est terrible pour lui, c'est qu'à l'âge de 15 ans, il découvre que voilà, sa mère habitait à quelques pâtés de maison. Elle était juste à côté et elle avait une autre famille et d'autres enfants. Et ça a été d'une violence inouïe pour lui. Et quand il a renoué avec elle, celle qui l'a initié à la musique, elle l'a fait découvrir Elvis Presley, enfin, elle était très importante. Et à ce moment-là, elle est morte, écrasée par un chauffard. Et il en a tiré beaucoup de violence et beaucoup d'amertume. Et cette fêlure-là, ce manque... inouï, voilà, c'est vraiment le refrain de sa vie et c'est vraiment le cœur de toutes ses fragilités. Donc, dans un premier temps, il a été extrêmement brutal, violent, parce que de toute façon, il était libre d'être fou, il était libre d'être violent. Et après, la drogue a beaucoup anesthésié sa capacité d'action. Il a vraiment, il disait lui-même que ça détruisait son ego. La création, ça a été un refuge, c'est évident. Le groupe, les Beatles. C'était une façon vraiment d'avoir une famille, un carapace. Et après, avec Yoko Ono, c'est pareil. Il a cherché en permanence des moyens de trouver un refuge. Ce qui est un peu triste dans son histoire, c'est que quand on lit le livre, on voit toute la souffrance et le malaise d'une manière générale. Et il était heureux à la fin de sa vie, au moment où il a été assassiné. Vraiment, il était apaisé. Il avait envie de revenir, il avait envie de refaire des concerts. Et je trouve ça un peu difficile, ça.